Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bon réveil vendredi 17 septembre déjà, mais ça passe tellement vite.
Ça passe vite, oui.
Bonjour Nicolas Tarade.
Bonjour Bernice Deville, vous allez bien?
Très bien et vous?
Bah écoutez, ouais, en pleine forme, c'est important d'être en forme parce que sinon ça va être long hein, jusqu'au mois de décembre si déjà on n'est pas en forme à la rentrée en septembre.
En plus là il fait beau depuis deux jours donc on est content. Bon,
on croise les doigts
pour ce week-end.
Pour les jours à venir, on sait pas trop, pour l'interrogation en tout cas.
Ça change tellement vite, vous avez prévu quoi alors ce week-end?
Je sais qu'il y a les journées du patrimoine mais ça va dépendre beaucoup de la météo aussi parce que, alors c'est vrai aujourd'hui avec le Covid donc il y a beaucoup de réservations pour aller sur les certains sites, en tout cas des journées du patrimoine. Mais s'il faut faire la queue dehors, en extérieur, sous la pluie, bon.
Et il y a déjà des monuments que vous aimeriez voir.
J'aimerais beaucoup aller au Panthéon.
Ah, oui.
Au Panthéon, parce que je sais que la coupole, on peut monter dessus et on peut faire le tour et avoir une vue magnifique sur Paris.
Ah oui, je savais pas.
Donc si jamais vous êtes dans les parages, dans le 5e arrondissement.
Eh bien, je viendrai avec plaisir.
Et s'il pleut pas.
Oui, s'il pleut pas. Bon, sinon, on est ensemble pendant deux heures au programme, évidemment, de l'actu, des infos autour de l'immobilier. À 8h, notre invité, l'invité du MAG, Julien Savelli.
Président délégué de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier.
Tout à fait. Et puis, comme d'habitude, comme chaque semaine, Jean-Michel Royot sera aussi avec nous pour nous présenter la start-up IMO de la semaine. Cette semaine, elle s'appelle Sowell, une application dédiée aux gardiens d'immeubles. On en reparlera dans quelques instants. Eh bien, c'est parti, on peut le dire, le Mac de l'Immo.
Go, Mac de l'Immo, c'est parti.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
Bon réveil si vous êtes avec nous, si vous ouvrez les yeux tout doucement. Voilà, on est ensemble jusqu'à 9h. C'était la 3e édition du Grand Prix ESSEC de la ville solidaire de l'immobilier cette semaine, de l'immobilier responsable du Beau Monde au micro de Radio Immo.
Du Beau Monde au sein de l'Hôtel de Ville de Paris. C'était lundi soir, on en a profité. C'est à partir de 19h une cérémonie de remise de prix avec, vous l'avez dit, Bérénice, du Beau Monde sur le plateau et puis au micro de Radio Immo.
Et d'ailleurs, restez connectés sur nos réseaux parce qu'on a fait des petites stories, c'était magnifique.
Il y a
magnifique.
Eu des stories Instagram, on a pu voir un peu le lieu, on a pu voir les interviews et puis aller voir surtout sur le site radioimmo.fr et puis sur tous les agrégateurs de podcasts, vous retrouverez toutes les interviews qu'on a pu faire ce soir-là et notamment une interview, Bérénice.
Vous avez reçu le maire de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Alors, il vous a présenté, Nicolas Tarade, le projet de revitalisation de la ceinture verte autour de sa ville. C'est Armand Bewindé à votre micro.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Alors, 3e édition ensuite de cette 3e édition de la remise des Grands Prix ESSEC de la ville solidaire et de l'immobilier responsable. Encore un gagnant autour de la table et je suis cette fois très fier, très heureux, très honoré surtout de le recevoir. Monsieur le maire de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso, est avec nous sur le plateau de Radio Immo. Armand Bewindé, bonjour.
Oui,
monsieur
bonjour.
Le maire. Vous allez bien?
Oui, très bien, et vous?
Écoutez, oui, en pleine forme, ravi de discuter avec vous de ce projet finalement de revalorisation de la ceinture verte de la ville de Ouagadougou, de votre ville. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, ce projet?
Ce projet est simplement une réappropriation de la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Il faut dire que la ceinture verte de la ville de Ouagadougou, c'est une idée qui a germé dans l'esprit de nos dirigeants depuis 1975. Parce qu'à ce moment-là, il y avait eu une grande sécheresse. C'est pourquoi j'ai parlé de Jean de Florette tout à l'heure, Manon des Sources. Pour dire, quand j'ai vu ce film, ça m'a rappelé 1975, où pendant 3 ans, il n'a pas plu dans le Sahel. Et aux premières pluies, en 1975, le gouvernement avait décidé de faire une ceinture verte autour de la ville pour éviter l'avancement du désert. Malheureusement, au fil du temps, les gouvernants se sont succédés et cette ceinture a été abandonnée et a été colonisée par plusieurs occupants anarchiques. Et finalement, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons décidé de nous réapproprier cette ceinture verte en la réhabilitant avec une idée innovante, c'est-à-dire replanter des arbres sur cette ceinture, mais installer des femmes qui vont pouvoir et travailler et faire du maraîchage et s'occuper des arbres. Et installer également des pépiniéristes qui vont pouvoir également cultiver des plantes ornementales pour la ville qui est en forte demande. et créer un commerce circulaire et un circuit court également d'approvisionnement pour nos cantines scolaires, parce que c'est là-bas que nous achetons nos légumes, c'est là-bas que nous achetons quelques vivres pour les cantines scolaires. Donc c'est un projet qui va permettre non seulement de reverdir la ville et de donner un poumon vert à la ville, mais également de créer beaucoup d'emplois pour des personnes vulnérables telles que les femmes en quête de travail et les jeunes qui veulent s'investir dans l'agriculture. Il faut dire que quand nous sommes arrivés sur cette ceinture verte qui avait été abandonnée, il y avait des femmes qui balayaient et qui ramassaient des graviers et pour les revendre à des chantiers pour des constructions. Elles travaillaient comme des forçats et nous les avons reconverties aujourd'hui et à faire du maraîchage et à s'occuper des arbres, qui est un travail beaucoup plus noble. Et on a commencé avec 35 femmes. Aujourd'hui, nous avons installé sur plus de 5 hectares 350 femmes. Et nous avons 1000 hectares à occuper. Donc vous voyez, si vous faites un petit calcul, vous verrez que très rapidement, ça sera quelque chose de très bien.
Eh bien écoutez, c'est un super projet, sublime voilà. Projet, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être venu en parler quelques minutes sur Radio Imo. Je rappelle que voilà, vous êtes le maire de Ouagadougou.
On a pu le faire aussi grâce aux mécènes et certaines sociétés qui, grâce à leur responsabilité sociétale, et nous accompagnent et nous aident avec des financements pour faire les forages.
En tout cas, c'est un joli message. Encore félicitations, merci monsieur beaucoup. Le maire. Et puis je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bon réveil à tous, toujours à l'écoute du Mac de l'Imo hein, sur Radio Imo. On est vendredi, c'est bientôt le week-end, plus qu'une journée.
Courage,
on est avec vous. J'espère que que le week-end sera ensoleillé et bénéfique pour tout le monde. On va poursuivre ce mag de l'Imo avec une actualité qui peut faire sourire, dit comme ça, mais qui est assez symbolique finalement d'une situation, d'une photographie du territoire
c'est
français aujourd'hui, c'est vrai. Regardez, en 5 ans, le nombre d'agences immobilières a doublé. On dénombre aujourd'hui davantage d'agences immobilières dans l'Hexagone que de boulangeries par tranche de 100 000 habitants. Et c'est Elodie Rabel qui nous raconte tout ça.
Le mag de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
C'est l'INSEE qui le dit, le nombre d'entreprises immobilières est deux fois plus important qu'il y a 5 ans. On en comptait 110 000 sur tout le territoire, soit 161 agences immobilières pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, sur le même ratio, on compte 73 boulangeries seulement. La FNANIM nuance ces chiffres et dissocie le nombre d'entreprises immobilières à celui de professionnels reconnus. Le nombre de cartes professionnelles est passé de 33 000 en août 2018 à un peu plus de 42 000 en juin 2021, explique son président Jean-Marc Taureau-Lyon. De plus, cette augmentation n'est pas synonyme de nouvelles vitrines. Une agence peut aussi bien recruter des collaborateurs supplémentaires. Pourtant, des vitrines d'agences immobilières, on en voit de plus en plus et ce n'est pas un hasard. Le délégué général de l'UNIS, Gérard Delvolvé, l'explique par l'explosion du nombre de transactions 1 million cette année. Ça a couplé à une autre explosion, celle du nombre de mandataires. Leur part est passée de 3% il y a 10 ans à 20% aujourd'hui.
Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z, audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accès aux énergies. www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique. Galtier Valuation, ce sont 60 professionnels, experts en évaluation immobilière, techniciens du bâtiment et ingénieurs en environnement qui travaillent sur l'ensemble du territoire pour vous proposer une offre globale d'expertise indispensable à une vision précise de la valeur de votre patrimoine immobilier. Recourir à l'expertise Galtier Valuation, c'est vous assurer de faire appel à une équipe reconnue pour son professionnalisme, disposant de toutes les certifications, garantissant la qualité des services proposés.
Le Mac de l'Imo continue En partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, on est toujours dans le Mac de l'Imo ensemble et justement avec de l'actu. Dans quelques instants, on va recevoir comme chaque semaine Jean-Michel Royot qui nous présentera la start-up Imo de la semaine avec son cofondateur Sowell, c'est cette semaine. Dans quelques instants aussi, notre invité du Mag, Julien Savelli,
président délégué de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Et puis en attendant, une interview, CAFPI a réalisé un nouvel observatoire des crédits qui met en évidence une sélection accrue des dossiers. Alors cela a plusieurs conséquences, notamment sur le taux d'apport et les montants empruntés. Bérénice Deville, vous êtes entretenue avec le directeur général adjoint de la société de courtage, Philippe Taboret.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Philippe Taboret, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes directeur général adjoint chez CAFPI.
Absolument.
CAFPI a réalisé un observatoire des crédits au niveau national et local. Déjà, comment a été réalisé cet observatoire ?
Il faut déjà savoir que cet observatoire, nous le tenons depuis maintenant 3 ans. C'est-à-dire qu'on a du recul, on analyse chaque trimestre les uns par rapport aux précédents, ensuite les semestres par rapport à N-1, et ensuite on fait un bilan annuel de façon à pouvoir mesurer les évolutions sur le comportement des emprunteurs dans les 3 catégories. On a la catégorie des primo-accédants, la catégorie des autres accédants, les secondo-accédants ou autres, et puis les investisseurs locatifs.
Et justement, là, vous parlez des primo-accédants. Grâce à cet observatoire, vous avez pu mettre en évidence 2 phénomènes qui ont rendu l'accès plus difficile au financement pour eux. Et c'est quoi ces 2 phénomènes, du coup ?
Alors, on a observé, bien sûr, le S1 2021 par rapport au S1 2020. L'événement majeur de cette période, c'est bien évidemment, il y en a 2. En ce qui concerne les financements immobiliers ou l'accession à la propriété en général, il y a, bien sûr, la pandémie, le confinement, l'arrêt d'activité, enfin, ça a été compliqué pour tout le monde. Et puis, le deuxième événement, c'est début d'année 2020, bien sûr, les recommandations du HCSF, les fameuses recommandations de la Banque de France, qui ont été encore modifiées en fin d'année 2020, au début d'année 2021.
Alors justement, quelles sont ces nouvelles recommandations du HCSF ? Donc, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière.
Qui dépend du ministère des Finances, donc Bruno Le Maire, et qui a en son sein des banques, bien sûr, et la Banque de France, différents organismes qui analysent, bien évidemment, la sécurité financière du pays et des banques en particulier. Donc, la première de ces normes, c'est de respecter un taux d'endettement ne dépassant pas 35% des revenus, un taux de charge de 35% des revenus, incluant donc les crédits d'un côté, les assurances face aux revenus du ménage. Le deuxième critère, c'est de ne plus dépasser la durée des crédits de plus de 25 ans sont interdits. Hors dérogation, on peut aller jusqu'à 27 dans le cadre de construction neuve pour la période de différé de 2 ans, mais 25 ans de durée maximum, vous avez du 30 ans préalablement, et puis de ne pas dépasser un taux de charge maximum, c'est-à-dire en fait une capacité globale d'endettement par rapport aux revenus de cette année de revenus. Donc en fait, on est sur des critères très stricts qui imposent aux banques de ne pas seulement faire une analyse de risque sur les profils, mais aussi de devoir respecter les critères.
Et alors, quelles sont les répercussions, du coup, sur, par exemple, le taux d'apport moyen français ou sur la durée initiale du prêt ?
Alors, ça a justement modifié la structure même des prêts qui étaient réalisés jusqu'à présent. Alors, pour l'instant, on observe les premiers effets. On va avoir des deuxièmes effets sur la deuxième partie de l'année 2021, puisque là, on va rentrer dans les contraintes maintenant d'application de ces règles. Et donc, toutes les banques s'y sont pliées. Il aura fallu un certain temps. Mais on constate déjà, en comparant le S1 2021 au S1 2020, qu'on a des évolutions sur la structure des crédits, puisque l'emprunt moyen a augmenté pendant cette période de 1,8%. C'est là, ça répond plus, bien évidemment, à la première chose, bien sûr, la hausse des prix. Les prix ont augmenté, donc on le subit. Mais aussi que les emprunteurs ont plus de moyens, donc une sélectivité de ces emprunteurs, au détriment, bien sûr, des primo-accédants les plus fragiles, puisque ces primo-accédants, aujourd'hui, qu'on analyse, ils sont plus riches, ils empruntent plus, donc ils ont plus de revenus. Donc, il y a une sélectivité au niveau de cette clientèle.
On peut parler, du coup, d'une évolution du profil des primo-accédants, en fait.
C'est ça. On est plus sélectif, donc, bien évidemment, ceux qui passent, ils sont de meilleure qualité, entre guillemets, dans le risque bancaire. Donc, ils empruntent plus, ils ont plus d'apport. Ils ont en moyenne 0,8% d'apport en plus par rapport à un semestre N-1. Et puis, ils empruntent sur des durées plus longues. Ça veut dire aussi qu'en moyenne, bien évidemment, puisqu'on passe sur des durées de 285 mois au lieu de 284 mois. Donc, toutes ces augmentations, ces hausses, ces contraintes se répercutent également sur les prix, bien évidemment, sur l'allongement des durées d'emprunt.
Pour conclure, quelles sont les observations de l'observatoire justement CAFPI que vous savez si bien réaliser, les grandes lignes?
Alors il y a évidemment une forte demande. Nous, ce qu'on constate, c'est que depuis toujours, les Français sont très attirés par la pierre et l'accession à la propriété, principalement la résidence principale, que cette propension à aller vers l'accession a augmenté avec le confinement, avec la pandémie, puisqu'on a fait du cocooning pendant cette période et que ça a encore accélérer ou augmenter en tout cas l'envie d'être chez soi et d'être confortablement installé chez soi. Donc cette envie de changement, il y a une forte appétence pour l'accession à la propriété. Cependant, ces durcissements de conditions et puis les conséquences aussi peut-être que va avoir cette période un peu délicate de pandémie qui va faire que certains vont perdre leurs emplois, des entreprises vont déposer le bilan, etc. En tout cas, l'économie va être touchée. Même si on voit une belle reprise aujourd'hui qui va empêcher à certains de réaliser le rêve. En tout cas, pour ceux qui peuvent encore réaliser ce rêve, a priori, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile parce que ces contraintes viennent durcir l'accès au crédit, durcir donc l'accès à la propriété, et certains rêves ne vont pas pouvoir se réaliser dans les prochains mois. Et tout ça ne va pas en s'arrangeant, puisque bien évidemment, encore une fois, ces contraintes HCSF sont vraiment des contraintes qui vont être sanctionnées maintenant si les banques ne les respectent pas. Donc la sélectivité va être encore plus dure dans les mois qui viennent.
Merci infiniment Philippe Taboret, directeur général adjoint chez CAFPI.
Je vous en prie, Bérénice, bonne journée.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Il est l'heure de prendre peut-être votre petit déjeuner. On vous accompagne jusqu'à 9h. On parle d'actualité immobilière, mais pas que. Là, justement, on va parler des professionnels du bâtiment qui constatent un rebond net de l'activité en 2021 pour le premier semestre par rapport à 2020. En attendant, cette amélioration n'a pas retrouvé vraiment son rythme de croisière de 2019. La Fédération française du bâtiment publie un rapport avec des chiffres plutôt mitigé. Jody Leclerc.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le secteur du bâtiment n'est pas épargné par la crise. Comme dans différents secteurs, l'épidémie de Covid-19 bouscule les projets et les organisations. La construction de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels peine à se redresser. Seulement 3,5% de plus pour les mises en chantier et une chute de 7% en ce qui concerne les permis de construire et les ventes sur 2 ans. Pour ce qui est du développement du parc locatif pour les zones A, A bis et B1, c'est moins 11% par rapport à l'année 2019. Le rapport de la Fédération française du bâtiment anticipe un repli de 5% de tous les secteurs de la construction par rapport à 2019. Même si les professionnels tentent de rester optimistes, une autre crise est là. Et c'est celle des matériaux. Depuis septembre, le prix des matières premières est en augmentation, comme pour le bois, PVC et l'acier. Une pénurie et donc une augmentation des prix qui n'aide pas la construction. D'autant plus que le bois est le premier matériel manquant, les entreprises ne peuvent pas s'en passer. Cette carence désorganise les chantiers et par conséquent rend très compliquée la réponse aux appels d'offres. Mais tout n'est pas tout noir. La FFB constate une belle progression dans l'amélioration entretien, plus 4,1% dans la rénovation énergétique, notamment grâce au dispositif MaPrimeRénov.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Your mind think it's someone else, someone
Toujours à l'écoute du Mac de l'Imo sur Radio Imo. Vous venez d'écouter Shakira, dont oui. Wait Up. Je la connaissais pas, celle-là de Shakira. Elle est récente, elle est nouvelle. Vérifiée.
Oui, c'est la nouvelle et je vous invite à voir le clip. Shakira qui est toujours aussi belle, qui danse toujours aussi bien.
Et ben on ira voir ça sur les plateformes d'écoute et de streaming vidéo.
Tout à fait.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Suite de ce Mac de l'Imo, bon réveil à toutes et tous, bienvenue sur Radio Imo, vous êtes toujours les bienvenus. On a plaisir à animer voilà, ensemble avec Bérénice cette première heure du Mac de l'Imo. Tout alors dans la deuxième heure, on va recevoir notre invité Julien Savelli, président délégué de la FNAIM, Jean-Michel Royot aussi avec sa start-up pour Start-up Imo. Mais voilà, en attendant de l'information autour de l'immobilier et cette étude menée par l'agence de location et de gestion en ligne Flatlooker, elle montre que dans les villes où l'encadrement des loyers est respecté, les propriétaires reçoivent plus de dossiers et leurs logements sont vacants moins longtemps entre deux locations. Élodie Rabel s'est entretenue avec le cofondateur Nicolas Parizeau.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bonjour Nicolas Parizeau.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Flatlooker. Flatlooker, on le rappelle, c'est une agence de location et de gestion en ligne. Et alors que la mairie de Paris et la fondation Abbé Pierre vont publier le premier baromètre annuel qui épingle les annonces immobilières qui ne respectent pas l'encadrement des loyers, vous, Nicolas Parizeau, avec Flatlooker, vous avez mené une étude sur l'impact réel du respect de l'encadrement des loyers. Ce qu'il en ressort, c'est que les propriétaires ont plutôt intérêt à respecter cet encadrement des loyers, n'est-ce pas ?
Écoutez, l'étude qu'on a menée, c'est une étude qui porte sur un peu plus de 1000 locations qui ont été faites l'an dernier, où on a comparé le temps qu'un appartement mettait à être loué et le nombre en fonction du respect ou non de l'encadrement. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un ratio de candidatures bien plus important pour les appartements qui respectaient l'encadrement, notamment dans les arrondissements les plus centraux de Paris, et également un délai de mise en location qui était raccourci.
Oui, alors vous venez de le dire, il y a des disparités quand même entre les arrondissements de Paris.
Tout à fait, et en fait ces disparités, elles sont notamment liées au fait que dans les arrondissements centraux de Paris, la différence entre l'encadrement et on va dire les loyers de marché est plus importante. Typiquement, si vous regardez le premier ou le deuxième arrondissement, les loyers sont assez importants lorsque l'encadrement est plus restrictif. Et donc, si vous respectez l'encadrement, vous recevez 3 à 4 fois plus de candidatures qu'un appartement qui ne respecte pas l'encadrement.
Alors, il y a des différences entre les arrondissements de Paris, entre en gros les plus prisés et les autres. Une disparité aussi selon la nature du bien, qu'on cherche un studio, un 2 pièces, un 3 pièces. Ça change comment dans votre étude ?
La différence est majoritairement plus importante sur les studios. En fait, sur les studios, ce qui se passe, c'est que vous avez également une réflexion de locataires qui vont chercher à se louer non plus pour un prix au mètre carré, mais qui vont chercher un logement, que le logement fasse 10 ou 13 mètres carrés, ça leur apporte peu. Le prix du marché pour un logement qui fait 10 ou 13 mètres carrés est toujours à peu près le même. Néanmoins, l'encadrement est directement proportionnel entre un logement qui va faire 10 ou 13 mètres carrés. Et donc, sur les studios, vous avez un écart qui est plus important et donc également beaucoup plus de fiches locatives et de dossiers locatifs reçus par les studios qui respectent l'encadrement.
Alors, les propriétaires reçoivent plus du dossier, mais un dossier, on le sait, il doit être solide. À Paris, on demande 3 fois le montant du loyer. Qu'est-ce que dit votre étude là-dessus ?
Alors, c'est ça qui est intéressant également, c'est que inévitablement, si vous respectez l'encadrement, vous allez afficher des loyers qui sont inférieurs à certaines pratiques de marché. Et donc, vu qu'aujourd'hui, notamment les organismes de garantie vous demandent une solvabilité qui est un ratio par rapport à votre loyer, eh bien, inévitablement, lorsque vous respectez l'encadrement et que vous diminuez votre loyer, vous allez avoir un nombre de candidatures considérées comme solvables par les organismes de garantie beaucoup plus important.
Mais force de constater hein, quand même que même avec l'encadrement des loyers, ça ne régule que les excès. La fourchette, elle est quand même large.
Tout à fait. Et c'est là toute la difficulté que représente aujourd'hui l'encadrement. C'est d'appliquer une règle qui est une règle finalement mathématique à un marché qui présente des spécificités à l'échelle de la rue, et à l'échelle de présence ou pas, de parking, de terrasse. Et c'est toute la difficulté de cet encadrement.
Oui, dans votre étude, malgré les avantages hein, certains que représente l'encadrement des loyers, tant du côté locataire que de propriétaire, il ne fait pas l'unanimité du tout.
Il ne fait pas l'unanimité du tout, non, parmi les propriétaires. Et il y a effectivement aujourd'hui une incompréhension de la part des propriétaires bailleurs à Paris sur la manière dont est calculé cet encadrement. Et l'incompréhension à laquelle nous, on fait face le plus souvent, c'est l'incompréhension liée au découpage géographique de cet encadrement. Aujourd'hui, l'encadrement, il est fixé notamment par un découpage géographique que sont les quartiers administratifs de Paris. Et si vous prenez par exemple un quartier vers Montmartre, vous allez avoir un logement situé porte de Clignancourt qui va subir le même encadrement qu'un logement qui est situé sur la butte Montmartre. Et c'est ça aujourd'hui que les propriétaires bailleurs ont du mal à comprendre. C'est une échelle de l'encadrement qui est un quartier administratif lorsque le marché aujourd'hui à Paris se joue à l'échelle de la rue. Il pourrait être intéressant d'avoir un think tank, un groupe de réflexion sur comment rendre cet encadrement plus avec une échelle plus granulaire que celle du quartier administratif pour que les bailleurs s'y retrouvent plus et comprennent mieux les sous-jacents de cette formule mathématique qui est aujourd'hui non comprise par les bailleurs parisiens.
Merci Nicolas Parizeau. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de Flatlocker.
Merci beaucoup pour votre accueil. Bonne journée.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Merci d'être avec nous sur Radio Imo. Comme chaque vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, Instagram,
abonnez-vous,
LinkedIn, Twitter, Facebook, radio.imo. Voilà, comme ça, on partage tout. Vous pourrez tout retrouver. Puis le site internet, évidemment, radio.imo. On parle justement de logement. Avec l'âge, la nécessité d'adapter son logement. Le gouvernement, d'ailleurs, prépare une nouvelle aide coup de pouce pour engager ce genre de travaux. Élodie Rabel nous en dit plus.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
L'installation d'un monte-escalier, remplacer une baignoire par une douche italienne, se doter d'une cuvette de WC ergonomique, en vieillissant, les besoins changent, notamment en matière de logement. Des travaux coûteux, c'est pourquoi Emmanuel Vargon prépare un nouveau guichet qui s'inspirera du dispositif MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique. La cible, ce sont les particuliers réalisant de gros travaux d'adaptation au vieillissement ou à la perte d'autonomie. Des aides de ce type, il en existe déjà via l'ANA ou la CAF. L'idée, c'est de simplifier et d'harmoniser la démarche. Et puisque MaPrimeRénov' est prise comme modèle, cette aide pour les seniors serait disponible, elle aussi, au guichet de l'ANA, un projet encore en gestation pour ce qui est de son officialisation. La ministre conserve le mystère. Il faudra patienter au moins un an pour en savoir plus sur le calendrier de la mise en application.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le Mac de l'Imo, ça continue sur Radio Imo. On est toujours vendredi matin. Il est presque 8h. C'est presque la fin de cette première heure ensemble, Bérénice.
C'est l'heure d'un autre café, d'ailleurs.
C'est vrai que c'est l'heure d'un autre café. Ou du premier, si vous venez de vous réveiller. Mais en tout cas, le deuxième arrive pour nous, voir le troisième depuis ce matin.
On les compte plus.
Oui, on les compte plus, c'est vrai. Bon, le quatrième arrivera en fin de matinée. Ça, c'est une certitude. En tout cas, on poursuit ce tour d'horizon de l'actualité immobilière avec une nouvelle interview, celle de Grégory Monod. Il profite de notre antenne sur Radio Imo pour évoquer les grandes lignes de la Convention nationale du pôle habitat de la FFB, dont il est le président, la FFB, la Fédération française du bâtiment. Un événement important où l'ensemble des acteurs de la filiale se réunissent pour aborder et entamer ensemble les défis de la transition écologique, numérique et professionnelle. Il raconte tout ça au micro de Kenza Barriga.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bonjour Grégory Monod.
Bonjour.
Vous êtes président du pôle Habitat FFB. Alors, avant d'aborder avec vous les grandes lignes de cette grande convention nationale, présentez-nous le pôle Habitat de la FFB et ses objectifs, surtout.
Alors, le pôle Habitat de la FFB regroupe au sein de la Fédération française du bâtiment le logement neuf, mais pas que. également la rénovation autour des rénovateurs globaux. Donc le logement neuf au travers de l'aménagement foncier, de la promotion immobilière et bien évidemment de la construction de maisons individuelles. Avec pour objectif justement d'échanger sur nos différents métiers et de travailler ensemble sur l'évolution de ceux-ci et donc sur la transition que nous devons faire pour adapter nos entreprises à l'évolution de nos métiers.
Alors la France a traversé une crise inédite, on a quand même traversé 2 ans compliqués. Comment le secteur ou les acteurs du métier se sont relevés suite à ça? Quels sont les retours que vous avez?
Alors aujourd'hui, ça dépend là encore des segments. Sur la maison individuelle, on a plutôt, je dirais, une dynamique positive avec des ventes qui sont plutôt tournées vers, je dirais, des signaux positifs et les feux sont ouverts avec un nombre de ventes qui n'a cessé d'augmenter en 2021. Sur le segment du collectif, beaucoup plus compliqué. Des problématiques plutôt liées aux autorisations et je dirais à cette ce courant de pensée qui depuis plusieurs années, qui est pas forcément lié à la crise sanitaire, qui était lié déjà à la période post-électorale municipale donc en 2018, où aujourd'hui le logement neuf bashing dans tous les territoires est quelque chose qu'on retrouve, et donc on a des difficultés à amener de l'offre sur le marché de la promotion immobilière.
Est-ce que la construction de maisons individuelles ne s'explique pas finalement par le besoin des Français à avoir finalement des espaces verts un peu plus d'avoir des espaces verts, des espaces un peu plus larges? Est-ce que le télétravail a changé la donne pour vous?
Alors, je pense que déjà, le souhait du Français et des Françaises, on le voit dans toutes les sondages qui ont pu être faits, c'est d'habiter en maison individuelle. Pour lui, dans son parcours résidentiel, c'est un aboutissement d'aller vers la maison individuelle, et ça, bien avant la crise sanitaire. En revanche, la crise sanitaire a peut-être accéléré justement le process de décision, justement au travers, vous l'avez dit, des multiples confinements qu'on a pu vivre ces 18 derniers mois. Et donc cette envie justement de se dire, voilà, j'ai besoin quand même de pouvoir sortir de chez moi, même si je travaille depuis chez moi, pour justement pouvoir profiter de ces espaces extérieurs.
Alors parlons de cette convention, si vous le voulez bien, qui s'articule autour de 3 axes, autour surtout de 3 grands enjeux. Donc environnemental, numérique et professionnel. Alors d'abord, comment est-ce que les professions vont-elles pouvoir s'unir autour justement de ces enjeux difficiles finalement à mener d'une seule et même voix? Est-ce que vous avez la sensation que c'est quelque chose qui va être compliqué à mener?
Alors, une transition n'est jamais simple, mais une transition, justement une évolution, doit être une opportunité pour nos différents métiers. Se regrouper justement au sein du pôle Habitat permet à nos adhérents de saisir différentes opportunités au travers des 4 métiers aujourd'hui que nous représentons. Et on voit que il y a de plus en plus de porosité dans ces métiers, entre la promotion immobilière, la maison individuelle, la rénovation énergétique et l'aménagement, où aujourd'hui nos adhérents travaillent sur ces différents segments. Donc pour eux, c'est justement une transition dans leur entreprise, et on est là pour leur apporter des solutions, pour leur apporter aussi des idées au travers du numérique. On va parler de transition numérique cet après-midi. Ça a toujours été chez nous quelque chose qui était fort et ancré depuis de nombreuses années, où on a pu découvrir, au travers de notre commission numérique et de son président Sylvain Massonneau, on a pu découvrir justement de nouvelles start-up qui nous ont permis aussi de nous cultiver en la matière et d'aborder différemment notre métier.
Ça veut dire que finalement l'intelligence collective, c'est le secret pour vous et la clé du succès pour réussir justement ces différentes transitions?
Ensemble, on est toujours plus fort. Et là encore, une journée comme celle d'aujourd'hui le démontre. Au travers de ce retour d'expérience et des 9 dossiers qui ont pu être présentés ce matin autour de la réglementation environnementale, donc transition environnementale, justement, permet à tout le monde de se nourrir de ces échanges avec les industriels également, parce que les industriels sont très très actifs à nos côtés. Oui. On travaille en R&D avec eux depuis de nombreuses années sur différents sujets, et je dirais là encore, c'est du gagnant-gagnant, le retour d'expérience qu'on peut avoir sur le terrain, et eux justement les nouvelles solutions technologiques qui peuvent nous apporter pour pouvoir relever ce défi.
Je vous souhaite beaucoup de succès pour ces objectifs, Grégory Monod. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir répondu à nos questions, président du pôle Habitat FFB.
Merci.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Ravi d'être avec vous, ça y est, ils sont arrivés dans les studios, on les retrouve dans quelques instants. Notre invité du MAG, évidemment, Julien Savelli, président délégué.
Ils sont en train de s'installer. Ouais. Au micro, le casque, le micro est presque allumé.
Exactement.
Le café aussi, sur la table.
Toujours là, hein, le
toujours
café.
Là. Il n'est pas très loin, c'est vrai.
Et puis Jean-Michel Royot aussi, qui va nous présenter Romain Bérézé, le cofondateur de Sowell, une application dédiée aux gardiens d'immeubles. Ça, c'est dans quelques instants. On en parlait tout à l'heure avec l'interview de Philippe Taboret. Les nouvelles conditions dictées par le Haut Conseil de Stabilité Financière, HCSF, auxquelles les banques seront soumises pour un prêt, justement, l'accès au crédit immobilier doit se conformer à de nouvelles restrictions. Jody Leclerc nous en dit plus.
Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le taux d'endettement est à 35%, pas plus. C'est l'une des mesures importantes que le Haut Conseil de Stabilité Financière décide d'imposer aux banques depuis le 15 septembre dernier. Cette décision est actée. Avant, le taux d'endettement était encadré, mais d'un groupe bancaire à un autre, des changements étaient possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, la durée maximale de crédit est de 25 ans et ne peut pas dépasser 35% de taux d'endettement. Sinon, la banque est sanctionnée. Si vous souhaitez investir et donc faire un prêt à l'achat, c'est le moment car les taux sont bas. Le contre-coup de ces nouvelles mesures se répercute sur les emprunteurs. Auparavant, les banques pouvaient aussi fixer, comme elles le décidaient, le taux des dérogations. Aujourd'hui, ce taux est fixé à 20% et pas plus. Ces nouvelles réglementations ont pour objectif de permettre une plus grande accessibilité aux emprunts, soit à l'achat d'un bien. Cependant, les primo-accédants qui se voyaient offrir des faveurs de taux de dérogation ne pourront plus en bénéficier.
Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Dans quelques instants, on va vous faire découvrir une musique, n'est-ce pas, Nicolas Tarade? Une musique qu'on a découvert sur Radio Imo et que je pense peu de gens connaissent.
C'est possible parce que je la connaissais pas non plus. Oui. Pour être totalement franc avec vous, vous l'avez fait découvrir, Bérénice. Et c'est vrai que c'est pas mal comme musique.
Une belle découverte, un Time to Move On. Et la chanteuse s'appelle Jodie Coste. Et franchement, écoutez, c'est du pur délice.
Le MAC de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Sad I look at you and the life I could have lived. I know I never found you in any smile or people kisses. You and I, we know the deal. You better with me out of way. So I try to keep it real, live my life like a party. It's time to move on with my life. Nothing to say about it anyway. I know you moved on with your life. I won't be standing on the side. Never find a better pair than you and me. So I knew it's about time that I move on like a queen. Cause you and I, we know the drill. You won't leave me anyway. So it's time to keep it real. Live my life like a party. It's time to move on with my life. The only way is happiness. Enjoy the stars at night, because the future keeps anyway. Have to move on, be all alone.
Time to Move On, c'était Jody Cost.
C'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que je la connaissais pas, à vrai dire, pour être franc avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant la chanson. Et je pense qu'on va être amené à l'entendre à nouveau, parce que, ça reste en tête. C'est joli, c'est beau et c'est parfait, quoi, pour un vendredi matin, pour se réveiller du bon pied, de bonne humeur et être en pleine forme pour la journée.
Et la chanteuse a du talent, en plus.
En plus. Toujours à l'écoute du Mac de Limo sur Radio Imo. Vous venez d'écouter Shakira, Wait Up. Je la connaissais pas, celle-là de Shakira. Elle est récente, elle est nouvelle, Véronique.
Oui, c'est la nouvelle et je vous invite à voir le clip. Shakira qui est toujours aussi belle, qui danse toujours aussi bien.
Et bien, on ira voir ça sur les plateformes d'écoute et de streaming vidéo.
Tout à fait.
Le Mac de Limo, la start-up Imo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis absolument ravi de vous présenter Romain Bérézé. Romain Bérézé a créé une start-up qui s'appelle Sowell et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour Romain.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous ?
Merci, très bien. En forme pour la rentrée.
Bon, super. Merci de participer à cette chronique, Romain. Vous allez nous expliquer ce que c'est Sowell. On va s'intéresser aujourd'hui à l'expérience locataire, à la gestion de proximité, le rôle essentiel des gardiens d'immeubles. Et Sowell a une promesse à nous proposer. À vous, Romain.
Exactement, merci Jean-Michel. En fait, la promesse de Sowell, c'est de simplifier le quotidien des gardiens d'immeubles grâce à une application mobile qui est très simple d'utilisation et qui va leur permettre aussi bien de gérer les réclamations de leurs locataires que de contrôler l'état général du patrimoine.
Alors ça, tout ça, c'est très intéressant, belle promesse. On a envie d'en savoir plus. Hein. Donc la tradition maintenant de cette chronique, c'est de donner une minute top chrono pour en savoir plus. Donc Romain, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça marche, depuis quand c'est créé? On veut tout savoir sur Sowell en une minute. Allez, c'est à vous, top chrono.
Et avec plaisir, merci Jean-Michel. Donc Sowell, ça vient d'une histoire personnelle. C'est la maman de mon associé qui était gardienne d'immeuble et qui était confrontée à la lourdeur administrative pour signaler un problème sur sa résidence. Donc en fait, elle utilisait concrètement des bordereaux papier que certains d'entre vous ont probablement connus. Et le problème, c'est surtout qu'elle avait aucune visibilité sur l'état d'avancement de ses demandes. Donc en 2018, on a décidé de créer Sowell, qui est une application mobile dédiée aux gardiens d'immeubles, qui est extrêmement simple d'utilisation et qui leur permet de signaler en quelques clics tous les incidents techniques qu'ils vont constater sur leur patrimoine. Ils ont aussi dans cette application de la visibilité sur toutes les réclamations qui concernent leur résidence, et c'est ce qui permet vraiment de les repositionner au cœur de la relation avec les locataires. On a développé ensuite une seconde fonctionnalité qui va permettre de notifier les gardiens sur l'ensemble des contrôles périodiques qu'ils doivent réaliser sur leur secteur. Donc concrètement, ça peut concerner des contrôles qui sont liés aux équipements de sécurité du bâtiment ou encore des contrôles de prestations de ménage par exemple. L'objectif, c'est de s'assurer de la sécurité des personnes dans les bâtiments et d'améliorer la qualité de service.
Super, merci, bien tenu à une minute, hein, c'est très clair. Donc pour résumer ce que je comprends, et vous allez me corriger si je m'égare, c'est que d'abord vous vous adressez aux bailleurs HLM, hein, qui ont effectivement beaucoup de gardiens pour tout ce service de proximité, et grâce à votre application, l'intelligence que vous avez mis dans le digital, vous allez pouvoir accélérer et améliorer le suivi et donc améliorer le service rendu aux clients, mais également pour le bailleur, mieux suivre les coûts, la réactivité de toutes ces fonctions de proximité développées par les gardiens. C'est bien ça ?
C'est exactement ça, Jean-Michel.
Alors, certains vous connaissent, on sait que vous avez déjà de très belles références en aussi peu d'années. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms pour connaître qui vous fait confiance aujourd'hui ?
Eh bien, avec plaisir. On travaille aujourd'hui avec une quarantaine de bailleurs sociaux, ce qui représente un peu plus de 400 000 logements en France. Et comme référence, on a à la fois des bailleurs métropolitains, comme Batigère, Neolia, INI ou encore le groupe Polylogie. Mais on a aussi depuis peu des références outre-mer, comme l'Office polynésien de l'habitat ou encore Ozanam en Martinique.
Oui, en effet, on note de très très belles références à la fois sur le territoire métropolitain, mais également ultramarin. Donc un très beau développement. Vous disiez 40 bailleurs HLM qui vous font confiance. Donc c'est effectivement remarquable. Bravo. Et donc si demain on veut vous contacter, comment on fait, Romain ?
Alors, vous pouvez nous contacter simplement sur notre site internet www.sowellapp.com. Sowellapp s'écrit S-O-W-E-L-A-P. Ou sinon sur notre page LinkedIn sans problème.
Très bien, merci Romain. Évidemment, on fera un petit post LinkedIn ensemble de manière à ce que les auditeurs puissent retrouver toutes les coordonnées, toutes les références que vous avez indiquées. En tout cas, je suis heureux de vous avoir reçu dans cette chronique. On vous souhaite beaucoup de succès dans les années à venir. Évidemment, on va vous suivre et on va se revoir. Merci infiniment Romain et à très bientôt.
Merci Jean-Michel pour l'invitation et à très vite.
Le Mac de l'Immo, la Startup Immo. En partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.